Bonjour. Donc nous allons vous présenter le travail qui a été réalisé dans le cadre du plan Garonne, qui consiste en une valorisation des paysages fluviaux vers une réappropriation sociale et culturelle. Donc là, on a un travail qui s'est fait en équipe avec Pascal Corniaud de la DREAL Occitanie, avec Ambre Giroux du syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, et avec Philippe Valette, encore une fois, du laboratoire Géode de l'Université de Toulouse, et moi-même, Sophie de Stoppler, pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine. On a un fleuve qui, effectivement, traverse deux régions, prenant sa source dans les Pyrénées espagnoles et aboutissant jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc c'est un fleuve qui est le quatrième fleuve français, avec un bassin versant important et 2,5 millions d'habitants qui côtoient ce fleuve dans toute sa linéarité. Donc ce fleuve, comme tous les autres fleuves, a été le support de nombreuses activités. À la base, les populations s'installaient au bord des cours d'eau. On a également utilisé la Garonne pour extraire des granulats. On a utilisé la Garonne pour sa ressource en eau et irrigation pour l'agriculture, qui a évolué vers une agriculture intensive. On a utilisé également la Garonne pour l'élevage et abreuver les animaux, pour sa production d'électricité, pour cultiver des bois à utiliser en populiculture. Donc de nombreux usages qui ont évolué, avec évidemment on a une grande diversité de paysages puisqu'on part de la montagne et on arrive à l'estuaire. Donc on part de Garonne en montagne avec les paysages que vous voyez en haut de l'écran. Ensuite, on a cette Garonne de Piémont avec de nouveaux paysages. La moyenne Garonne qui est très marquée par l'agriculture, l'industrialisation, donc vraiment des foyers de population importants, et qui débouche dans le magnifique estuaire de la Gironde. Vous voyez complètement des aspects totalement différents de ce fleuve. Maintenant, comme les usages ont évolué, la lisibilité de ce paysage a également évolué. On a une perte de lisibilité qui est notoire. D'une Garonne dont on pouvait voir c'est la Garonnelle, dont on pouvait la Garonnette, à chaque fois je me trompe, à Toulouse, dont on pouvait voir le cours d'eau dans la ville, avec à côté la Garonnelle qu'on ne voit plus du tout, qui est complètement recouverte. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Qui est complètement asséchée, qui est recouverte et qui a totalement disparu du paysage urbain. Une autre perte d'usage, on a utilisé la Garonne pour se baigner. De nombreuses populations ont appris à nager dans la Garonne. On avait des plages et des lieux de récréation au bord de Garonne. Plages qui ont été peu à peu, les usages ont été abandonnés pour des raisons de sécurité, entre autres, de crainte de pollution. Et de ce fait, la ripisylve s'est développée et on a une fermeture visuelle des berges. Là. Une autre perte de lisibilité, ici on est en Lot-et-Garonne, à Port-Sainte-Marie. Donc on voit l'image ancienne avec une possibilité de s'asseoir sur la hauteur, de profiter de la vue de la Garonne. Maintenant, Port-Sainte-Marie, la voie ferrée depuis les années 1950 passe tout au bord du village. Et puis, il y a une route qui s'est installée, développée en contrebas, qui longe la Garonne et la Ripisylve, donc perte de visibilité sur le fleuve.
Merci Sophie. Nous arrivons au XXIe siècle, donc on quitte les images de l'Observatoire photographique des paysages de Philippe Valette, puisque on s'est promis de le citer plusieurs fois puisqu'il n'a pas pu être là. Donc on arrive au XXIe siècle, donc c'est le siècle de la nouvelle valorisation, et notamment avec la décision en 2005 de mettre en place un plan grand fleuve sur la Garonne. Donc il y a un certain nombre de discussions qui amènent à une signature d'un premier plan Garonne en 2009 qui a la spécificité, l'originalité d'avoir un axe dédié à l'identité paysagère et culturelle de la vallée de la Garonne. Donc on en profite pour lancer des études pour mieux connaître les paysages de la vallée. Donc le SMEAG est missionné pour lancer ces études-là avec une grande étude qui permet de connaître les différentes entités. Et puis ensuite un appel à candidature fait auprès des collectivités pour aller un petit peu plus loin. Et des communautés de communes répondent dans l'idée d'avoir une étude complémentaire avec une approche sociologique. Donc là, il y a des enquêtes qui sont réalisées auprès de la population. Il y a des projets qui sont proposés, des esquisses pour donner un petit peu à voir ce que pourrait être un retour vers le fleuve. Alors, ces études, elles se déroulent jusqu'en 2012-2013. Et on a essayé de faire un petit peu un constat, de voir est-ce qu'il y a une évolution dans les projets. Et effectivement, nous, on constate donc... Avant 2012, on a des actions de retour au fleuve, principalement en ville. Alors, c'est une image de Bordeaux qui se trouve en haut. Donc, il y a des actions sur Toulouse, sur Agen, voilà, plutôt en zone urbaine. Ou alors, des actions plus ponctuelles, c'est l'image du bas, c'est des actions portées par des associations naturalistes. Donc là, on est sur du ponctuel de renaturation de méandres, d'espaces. Donc là, c'est au Ramier de Bigorre et c'est l'association Nature Midi-Pyrénées. Et puis des précurseurs, notamment un précurseur, c'est la commune de Couture-sur-Garonne, qui est une commune qui vit avec le risque inondation et qui souhaite en parler, donc qui crée une maison Jean de Garonne pour parler de comment on peut vivre avec le fleuve. Et finalement, ils sont très heureux de vivre avec le fleuve, avec cette Garonne qui vient les inonder tous les ans. Après 2012, il y a une multiplication des projets, alors en partie liée au support du plan Garonne, mais pas que, hein, puisque les deux images du haut n'ont pas été ni financées ni accompagnées par le plan Garonne, mais quoique en haut, si l'étude a été accompagnée par le plan Garonne, je dis des bêtises, pas les travaux, mais donc des actions de cheminement là sur l'Angouaran, sur le vallon de l'Artolie, sur... les premières images, des belvédères sur la Garonne à Agen, qu'on voit sur la droite de l'image, enfin, c'est pas très clair là. Et puis un autre exemple, c'est donc là directement issu justement de ces études paysagères et de l'envie de renouer vers le fleuve. Donc sur la Garonne, une Garonne très court-circuitée avec beaucoup d'hydroélectricité sur le Volvestre, avec des roselières qui sont recréées et aussi une dimension patrimoniale avec du patrimoine bâti, anciens dispositifs de guet qui sont retrouvés, restaurés. Donc on est dans cette première phase du plan Garonne, on a des projets qui se multiplient et il y a un groupe technique qui suit ces actions dans le cadre du plan Garonne et qui commence à définir une stratégie en disant on a des projets qui se multiplient, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ce soit que du cheminement parce que ça ne suffit pas. Il faut aussi sauver ce qui reste comme valeur patrimoniale, que ce soit patrimoine naturel et bâti. Il faut aussi en restaurer. Il faut avoir une action d'animation auprès des populations pour être sensibilisé aux grands enjeux. Donc avoir une stratégie un peu multifonctionnelle des projets. Et c'est ce qu'on met en place donc en 2016 avec un nouveau plan Garonne. Enfin voilà, on change de contrat de plan. Au passage, je le dis quand même, on perd les crédits État que nous avions à ce moment-là, mais on a des crédits européens qui permettent de continuer d'accompagner les projets. Donc on part sur des stratégies multifonctionnelles. Donc l'idée étant à la fois de proposer des projets qui requalifient l'espace. Donc c'est l'image du haut, c'est à Langon. Donc on est sur une restauration des quais, mais il y a un vrai enjeu de renouer et de faire du lien entre ville et fleuve et de créer vraiment un pôle d'attractivité sur cette commune. On a donc des actions au milieu, c'est une navette fluviale qui voit le jour sur la Gruère Tonneins et qui est combinée aussi à des actions de requalification et notamment d'un espace qui était délaissé en bord de canal et qui permet de faire du lien entre le canal latéral de Garonne et la Garonne. Ou comme là sur la partie amont à Saint-Martory, on a des travaux faits avec les scolaires. Et donc c'est dans le cadre d'un projet à une échelle intercommunale qui permet de retrouver le fleuve avec différentes actions. Donc l'intérêt effectivement de travailler sur appel à projet à partir de 2016, c'est qu'on essaye d'avoir imposer des critères un petit peu, donc imposer cette stratégie multifonctionnelle, imposer aussi une contribution à la continuité écologique. On est dans un axe dans le cadre des crédits européens qui profite à la continuité écologique, donc c'est important dans les objectifs. On peut imposer aussi d'être sur des projets qui sont vraiment pertinents par rapport au lieu, qui s'adaptent au lieu dans lequel s'inscrivent ces projets. Et puis on essaye d'avoir des projets qui ont un plus grand rayonnement que ce qu'on avait jusqu'à présent, soit parce qu'ils sont portés par des intercommunalités, soit par des communes qui se regroupent, on en reparlera à la fin. Et sur cette valorisation, je conclue, on a l'impression de revoir la même image que celle qu'a projetée Sylvie. Il y a effectivement un usage festif qui se développe depuis les années 2000, un usage de loisirs très fort. Donc c'est une réappropriation. Par contre, il faut quand même rester vigilant, effectivement. Il ne faut pas qu'on reste sur une Garonne qui devient juste un objet de consommation, mais qu'on soit bien sur un bien commun que l'on veut préserver. Et donc, c'est important de travailler sur la perception qu'en ont les populations. Et c'est ma transition pour passer la parole à Ambre.
Alors, on ne le dit jamais assez, le paysage, il n'existe que parce qu'il est perçu. Et dans le cadre du plan Garonne, on a voulu travailler sur cette question de la perception et interroger un peu les perceptions. On a commencé en 2010-2013, dans les études paysagères qui ont été réalisées par le SMEAG, à faire un recueil qualitatif auprès d'habitants. Sur chacune des études paysagères, à peu près une trentaine de personnes qui étaient interrogées. C'est une manière pour le bureau d'études de connaître un peu mieux le territoire, d'avoir accès à une mémoire des anciens, et puis de demander aux gens quelles étaient leurs connaissances du territoire et quels étaient les lieux qui leur paraissaient intéressants de mettre en valeur. Bon, quand on analyse le verbatim qui a été recueilli, on a quand même à cette époque-là beaucoup de nostalgie qui revient, une conscience des usages qui sont perdus, également une personnification de la Garonne. En fait, la Garonne, quand on demande aux habitants de la vallée, ils l'appellent pas la Garonne, ils l'appellent Garonne. Et un élément, et c'est un élément identitaire à partager. Donc, on a quand même cette conscience de l'intérêt de préserver. Et de donner à voir qu'est-ce que ça peut être l'identité garonnaise, en tout cas les identités et les spécificités de chacun des paysages qui sont traversés. Plus récemment, Philippe Valette a réalisé avec ses étudiants des enquêtes en bord de Garonne. Alors là, c'est pareil, il a repris les grandes entités paysagères et a fait réaliser des questionnaires en bord de fleuve. Chose quand même... assez classiquement, on remarque que quand on demande aux personnes de citer trois mots sur la Garonne, ce qui va revenir le plus souvent, donc, c'est des éléments de paysage, l'eau, le fleuve. Voilà, la Garonne, c'est de l'eau, c'est le fleuve. La subjectivité arrive en deuxième position. Donc on a quand même, et c'est très fort, un attachement au fleuve comme un élément sensible, participant au cadre de vie. Ça c'est une constante. Donc en fait, le fleuve est un objet sur lequel on projette beaucoup, mais où on projette beaucoup sur la question du loisir. Et c'est là un peu qu'il y a un basculement qui s'opère pour nous, c'est que on arrive quand même dans un cas de figure où le loisir est quelque chose qui est très prégnant, notamment dans certaines portions, particulièrement la pêche. Et du coup, ça pose quand même la question de savoir comment ces représentations-là, elles modifient la manière dont on réalise des projets en bord de Garonne. La question de la naturalité et les qualificatifs négatifs arrivent à égalité. Donc la question de la naturalité, on peut dire, elle est un peu reléguée dans un second plan. On a fait, alors Philippe Valette toujours, a fait une enquête par photo-questionnaire. Ça vient un peu confirmer ça. Les paysages qui sont les mieux notés, donc l'idée c'était d'avoir une planche avec plusieurs types de photographies et de les noter de 0 à 10. Les mieux notés sont les paysages patrimoniaux, la carte postale, les grands ouvrages d'art. En deuxième rang, ce qui est le mieux perçu, ce sont des paysages de pelouse bien tondue. Et ensuite, les paysages du ludique. Ce qui arrive un peu plus tard, c'est finalement donc paysages de l'intime, panoramique. Moi, ce qui m'intéressait le plus de vous présenter, c'est que les paysages du sauvage arrivent là à peine un peu au-dessus de la moyenne, plutôt en bas du classement. Alors que c'est des paysages à très forte naturalité, donc qui sont intéressants d'un point de vue écologique, mais qui ne sont pas aujourd'hui forcément compris par les populations. Ça paraît sale, ça paraît abandonné. Et finalement, on n'est quand même pas très loin en termes de notation de ce qui arrive en dernier, donc le paysage industriel, le paysage du risque et le paysage dégradé. À savoir qu'ici, bon, c'est une photographie prise en ville, mais effectivement, le paysage du risque, ce n'est pas forcément que le paysage de la catastrophe. Un fleuve, ça inonde. C'est normal, ça fait partie du fonctionnement du fleuve. Donc tout ça fait quand même apparaître qu'il y a un travail à mener sur la sensibilisation à la naturalité du fleuve, aux dynamiques fluviales, qui est encore aujourd'hui à mener dans la vallée de la Garonne. Alors pour accompagner les projets à l'échelle de la vallée et dans le cadre du plan Garonne, un certain nombre de dynamiques sont mises en place. Pour essayer de créer de la solidarité et mettre en réseau l'ensemble des projets qui sont menés. Donc dans ce cadre-là, le SMEAG mène une animation qui est financée dans le cadre du plan Garonne depuis plusieurs années maintenant, en collaboration avec l'ADREAL. Et donc on fait de l'accompagnement auprès des collectivités pour les aider à concevoir leurs projets. Surtout essayer d'élargir un petit peu l'enveloppe des projets. On fait du retour d'expérience et de la mise en réseau. Donc là, vous avez des petites illustrations d'une journée qu'on a fait en 2018, lors de laquelle on avait donc il y avait des présentations de projets qui étaient réalisés dans l'ensemble de la vallée, qui étaient un peu représentatifs de ce que d'autres collectivités pouvaient mener aussi. Donc ça a engagé un débat sur quels étaient les points communs, etc. Et en deuxième partie de journée, on a fait des ateliers sur des thématiques qui avaient été choisies avec les collectivités, qui sont des thématiques qui les intéressent, et c'est comment mettre en réseau les maisons de Garonne, puisqu'on a beaucoup de projets muséographiques en lien avec la Garonne qui apparaissent aujourd'hui. Ils posent vraiment la question de savoir si on ne va pas avoir une mise en concurrence, mais en tout cas, d'essayer de travailler ensemble à la complémentarité de ces lieux. Comment on parcourt la Garonne, quelles sont les itinérances possibles. Aujourd'hui, on n'a pas dit. On n'a pas la possibilité de suivre la Garonne sur l'ensemble de son cours, de la source à l'estuaire, en cheminement doux, par exemple. Il y a encore énormément de trous. Et puis, enfin, proposer une destination Garonne. On a la question des politiques touristiques qui, aujourd'hui, ne sont pas mises en réseau, peu de visibilité des actions qui sont menées. Et on commence d'ailleurs une étude dans ce sens-là pour essayer de voir comment pourrait se structurer une destination Garonne.
Donc, dans les dynamiques collectives mises en place, il y a vraiment une coordination des animations qui se fait avec des projets animations qui se portent sur l'ensemble d'une partie ou sur tout l'ensemble de la Garonne. On valorise le fait de... Je ne vais pas dire valoriser... Il y a un mot que j'aime pas trop. On va rendre accessible la connaissance scientifique. On va pas vulgariser, c'est le mot que je voulais pas dire. On cherche à rendre accessible toute cette connaissance scientifique qui existe et qui continue à se faire autour de la Garonne. Notamment les études de Philippe Valette, d'autres projets d'études sur la transformation du fleuve qui vont avoir jour. Puis, sur chaque appel à projet, on incite à mettre en place un observatoire photographique des paysages de Garonne. Donc ça, c'est tout un thème aussi. On voit en bas que la ville de Langon, qui a bénéficié dans le cadre du plan Garonne d'une aide pour l'aménagement de ses quais, a également commencé à mettre en place un observatoire photographique des paysages fluviaux.
Alors, et c'est à moi que revient la conclusion. On l'a vu à travers cette présentation, mais globalement, un territoire fluvial ou un territoire de cours d'eau de manière générale, c'est vraiment un support pour faire de belles démarches paysagères. D'abord parce que les vallées structurent les territoires, parce qu'elles nous offrent leurs zones inondables, et c'est pas rien, c'est un beau cadeau. Et puis, on le voit, il y a un besoin de nature de proximité qui ressort dans toutes les enquêtes de perception aussi. Donc, on peut faire de belles démarches paysagères, mais il faut pouvoir les accompagner. Les accompagner notamment pour passer de l'intérêt particulier qui ressort des enquêtes de perception vers une dynamique collective. Et sur la Garonne est en train d'émerger une dynamique collective, mais on y met de l'énergie. Voilà. Et on rencontre des difficultés. Alors, on a des difficultés, par exemple, dans la prise de maîtrise d'ouvrage. On voudrait que ce soit des communautés de communes qui prennent en charge ces projets-là, et ce n'est pas toujours possible. La réforme territoriale, elle a été quand même bénéfique parce que la Garonne prend une place plus importante dans un certain nombre de territoires. Par contre, il faut effectivement caisser les fusions. Il y a des priorités qui leur sont données, par exemple, de prendre en charge la gestion de la GEMAPI. Et malheureusement, dans GEMAPI, il n'y a pas paysage. C'est bien dommage. Donc, bon, on a parfois des communes qui se regroupent pour pouvoir porter des projets. Elles ont peu de moyens administratifs, techniques et financiers. Donc, c'est vrai que dans le cadre du plan Garonne, on les accompagne beaucoup. Et ce plan Garonne est vraiment utile, notamment pour ça. Aussi, grâce au plan Garonne, eh bien, on donne une approche territoriale. Quand on finance notamment des projets, on les finance dans leur globalité et pas en regardant un morceau de politique publique. Et c'est malheureusement ce que font souvent les cofinanceurs. Et parfois, les plans de financement sont aussi difficiles à monter. Et nous, voilà, on apporte des crédits FEDER. On n'a malheureusement pas à l'heure actuelle de crédits État qui viennent en complément. Donc voilà, parfois, ça fait capoter des projets. Ça a été le cas sur un projet du Volvestre récemment qui n'a pas réussi à aller au bout. On a un grand problème sur la Garonne aussi, c'est qu'on n'a pas de grand portage politique. On n'a pas de conseils départementaux, ou de conseils régionaux qui affirment avec force qu'il faut continuer à travailler sur l'ensemble du bassin de la Garonne. Donc il faut que l'État, pour l'instant, reste moteur, en tout cas. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas évident, et si on peut avoir d'ailleurs un appui au niveau national ou européen sur tout l'intérêt des plans fleuves, sur tout l'intérêt d'une démarche paysagère dans le cadre des plans fleuves, on est preneur, et tout ce qui pourra nous aider à avoir les moyens financiers d'accompagner cette démarche qui est en émergence, on est preneur aussi. Et voilà, merci si vous pouvez nous aider au premier rang. Que de l'argent. Et alors, effectivement, et puis c'est un peu urgent aussi parce que les contrats de plan sont là en cours de démarrage de négociation, et l'existence d'un contrat de plan interrégional qui réunit Occitanie et Aquitaine, il est en grande question. On ne sait pas comment vont répondre les conseils régionaux. La dernière fois, ils n'ont pas trop souhaité s'entendre pour proposer quelque chose. Donc là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Nous, on insiste pour que l'approche paysagère soit aussi dans ce programme. Mais on ne sait pas si on va y arriver, et pourtant on veut vraiment continuer à travailler ensemble.